a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité à VO Afrique. Vous écoutez l'Amérique et vous, nous émettons depuis Washington DC, la capitale des États-Unis. Au micro de présentation, John Lyndon, Joselle Morissin assure la mise en onde assistée de Fred. Aujourd'hui, nous parlons des études aux États-Unis. Les États-Unis possèdent les établissements les plus prestigieux au monde. Mais il faut débourser d'énormes sommes pour accéder à une université américaine. Malgré ses coûts élevés, des milliers d'étudiants y viennent chaque année pour différents cursus. Décrocher un diplôme américain ouvre en effet de nombreuses portes dans le monde de l'emploi. Qu'ils soient originaires du continent africain, d'Europe ou de plusieurs autres régions du monde, ceux qui font leurs études aux États-Unis ont souvent le choix entre rester chez l'oncle Sam ou alors retourner dans leur pays pour poursuivre une carrière ou démarrer leur entreprise. Dans cette émission, nous partagerons avec vous l'expérience de nos invités, de même qu'on parlera des démarches à entreprendre pour obtenir le fameux sésame. Je veux parler du visa étudiant. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Vous écoutez l'Amérique et vous sur VO Afrique et pour nous accompagner au cours de cette émission ce soir, nous avons comme invité Monsieur Tukur Issa. Monsieur Tukur Issa a fait ses études à Morgan State University dans l'état du Maryland ici aux États-Unis. Il est titulaire d'un MBA. Également comme invité dans ce studio, j'ai Nastasia Petel, tu m'excuseras Nastasia. Alors, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà. Autre invité, c'est Martial Ongono. Martial Ongono a fait ses études à Columbia University à New York. Monsieur Ongono, bonsoir.
Bonsoir John.
Voilà, merci hein, de votre disponibilité. Alors, je vais commencer par vous, Martial. Vous avez fait des études ici aux États-Unis. Parlez-nous de votre séjour à Columbia University. Déjà, vous y étiez pourquoi, pour quelle filière?
Alors, je suis arrivé à Columbia University en août 2006.
On a qui d'autre?
Je venais faire la School of International and Public Affairs de Columbia University, où j'ai étudié l'économie du développement et politique, ce qu'ils appellent en anglais economic and political development. Mm. Donc, c'est en réalité des études de développement international, si vous voulez, axées sur le développement économique et le développement des affaires politiques.
Alors, et quel a été à la fin de ces études le résultat?
Alors, j'ai eu mon diplôme, mon MPA, Master of Public Administration, dans cette spécialité-là. Et j'ai travaillé pendant une année après mes études au Pico Center de Columbia University, qui délivre en réalité des diplômes, des programmes non diplômants. Des personnes qui travaillent déjà et qui viennent de partout dans le monde, notamment des Chinois qu'on recevait beaucoup, mais aussi des Américains même et d'autres personnes qui venaient d'Amérique latine. Alors, j'ai travaillé un an et après cette année-là, j'ai eu un travail dans une petite entreprise américaine qui est une entreprise privée qui s'appelle America Works of New York, qui en réalité travaille sur des questions de développement. Donc j'étais en plein dans ma formation parce que c'est une entreprise qui reçoit des personnes qui sont sur assistance publique parce qu'ils ont été en prison pour la plupart, ils sont un peu hors circuit économique. On les formait rapidement sur 2, 3, 4 semaines et après on leur trouvait du travail et la société était rémunérée sur le principe de garder les gens au travail. Quand c'était un mois, on avait un pourcentage, 3 mois, 9 pourcentage, jusqu'à 9 mois et 1 an. facile a été prouvé par des études que une fois qu'on a gardé ces gens qui sont sur assistance, une fois qu'on les a gardés, sur 12 mois, la plupart, plus de 50% finalement, rentrent dans le système économique et ne ressortent pas.
Voilà, donc vous restez avec nous, Monsieur Ngono, puisque après Columbia University, vous avez décidé de rentrer dans votre pays, le Cameroun, où vous avez monté une entreprise de communication. Nous en parlerons après. Dans ce studio, Nastasia, vous venez de France. Racontez-nous comment vous êtes arrivée à faire des études aux États-Unis.
Donc je faisais des études en France, à la Sorbonne, à Paris, et j'avais très envie d'avoir une expérience à l'étranger. J'ai choisi ma filière en France pour pouvoir intégrer un programme aux États-Unis. Donc j'étais en master de journalisme et j'ai bifurqué en master de relations internationales. Et donc en faisant ça, j'ai pu être sponsorisée pour aller à l'université du Massachusetts où j'ai intégré le programme CUPA, C-U-P-A, qui donne des bourses et puis qui aide au logement sur place, et voilà, pour 6 mois.
Alors, vous avez, après cela, déjà, pourquoi vous avez choisi les États-Unis? Vous seriez peut-être parti en Inde, en Chine, comme c'est le cas pour beaucoup d'étudiants français en ce moment. Pourquoi les États-Unis?
J'avais déjà fait une expérience à l'étranger, en République tchèque, et j'avais envie de parfaire mon anglais. Donc voilà, les États-Unis, c'est très bien pour ça. Et puis, au niveau de mes études, l'Université du Massachusetts était très reconnue. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi de partir aux États-Unis.
Voilà, on va parler de votre expérience. Je vais prendre également un autre invité qu'on n'avait pas annoncé au début de cette émission. C'est Edouard Abba. Abba, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez également fait les études aux États-Unis. C'était où et qu'est-ce que vous êtes devenu depuis?
J'ai fait mon master au niveau de George Mason University dans la Virginie et c'était dans le domaine des relations internationales avec spécialisation en résolution et analyse des conflits.
Alors, déjà, comment est-ce que vous êtes arrivé aux États-Unis en tant qu'étudiant? Je veux parler des démarches qu'il a fallu entreprendre pour commencer vos études ici.
Je dois dire que ma démarche a été un peu insolite parce que je ne suis pas venu directement en tant qu'étudiant. Je suis venu dans le cadre, disons, de mariage et j'avais l'intention également de continuer mes études. Donc, c'est à partir de là que j'ai profité aussi pour continuer les études. Donc, moi, je suis venu ici parce que ma femme, elle vit ici, elle est américaine. Donc, je devais la rejoindre, mais il fallait aussi poursuivre les études.
D'accord. Vous avez décidé donc de faire vos études et depuis lors, vous travaillez, il me semble, dans une municipalité?
La municipalité, c'est le travail, disons, d'à côté. Mon travail à temps plein, c'est je suis médiateur au niveau de la Cour supérieure du district de Columbia, de DC.
Ça, c'est intéressant. Alors, vous restez avec nous. On va repartir vers M. Ngono. Alors, comment est-ce que vous êtes pris pour ce qui était des démarches? Parce que c'est la question que beaucoup d'étudiants en Afrique se posent. Apparemment, c'est pas évident.
Oui, alors, moi, mon expérience est particulière. Il se trouve qu'avant de venir aux États-Unis, j'avais été journaliste au Cameroun, diplômé dans une école de journalisme à Yaoundé, et travaillant à la Cameroun Radio Télévision, qui était la chaîne publique. J'ai eu une admission à Sciences Po Paris. Et étant à Sciences Po Paris, j'ai intégré un programme qui était en partenariat avec Columbia University. Donc, on sélectionnait les meilleurs du groupe pour aller étudier soit à Columbia University, soit à la London School of Economics. J'avais été admis aux deux écoles et j'ai fait le choix de venir aux États-Unis parce que j'avais déjà eu un premier séjour à Londres.
Tout à fait.
La vérité, c'est qu'une fois que je suis admis à Columbia, les problèmes, j'ai envie de dire ça comme ça, les problèmes commencent parce que j'ai l'admission, mais je n'ai pas de moyens, bien qu'étant ancien fonctionnaire au Cameroun, je n'ai pas de moyens pour payer mes études aux États-Unis parce que c'était très cher. Il fallait débourser en une année au-delà de la pension qui était à 30 000 $, d'autres frais qui allaient jusqu'à à peu près, la totalité à peu près 55 000 $, 60 000 $. C'est beaucoup d'argent pour des Africains, pour nous qui venons sans soutien. Donc j'ai entrepris des démarches, je suis rentré au Cameroun les vacances avant la rentrée pour essayer d'obtenir soit une bourse, soit un soutien de l'État du Cameroun, ce que je n'ai pas vu. Mon ancienne école à Paris, Sciences Po, m'a accordé 50% de soutien pour ma scolarité. Et à partir de là, j'ai dû faire un montage entre une aide familiale qui n'était pas très significative, responsable dans les administrations, la haute administration publique à Montréal qui m'ont aidé. Et puis moi-même, mes petites économies, parce qu'ils continuaient à travailler quand même comme journaliste étant en France, j'ai fait des piges dans des journaux. Cela m'a permis de pouvoir enfin rassembler le minimum qu'il fallait pour démontrer que j'ai suffisamment d'économies pour pouvoir faire des études à Columbia.
Voilà.
Mais ce n'est pas du tout évident, parce qu'une fois arrivé à Columbia, j'ai tenu le premier mois, le deuxième. Mais après, j'ai dû en réalité prendre un crédit à la banque en France. Mon école avait une convention avec la Société Générale de Banque en France qui m'a donné un crédit de 30 000 euros. C'est ce crédit-là, en réalité, qui m'a permis de terminer mon MBA.
Ça, c'est pas évident, comme on peut le voir. On va prendre un auditeur, Youssouf Cissé, du Mali. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, on vous écoute. Les études bonsoir. Aux États-Unis, ça vous intéresse?
Bonsoir, les États-Unis.
Oui, bonsoir. On vous écoute.
Moi, je suis ici du Mali. Je viens de Bamako.
Oui, allez-y.
Allô?
Oui, allez-y.
Je me souviens de l'année 1998, nous étions 13 personnes à avoir cherché à aller aux États-Unis. Et on est allé voir le centre culturel américain à Bamako. Nous avons cherché à faire des inscriptions à des universités aux États-Unis. Et au finish, il n'y a eu que 6 qui sont partis aux États-Unis. Les restes de 7-là sont restés à Bamako. Nous avons cherché à avoir des écoles là-bas, à faire des cours par correspondance. En ce moment, l'Internet n'était pas propagé. Nous n'avons trouvé aucune école aux États-Unis qui serait capable de nous faire la formation à distance manuellement, c'est-à-dire en nous envoyant des livres, des brochures qui nous permettaient de faire des exercices en envoyant avec les corrections des professeurs qualifiés. Au retour, nous avons épaulé l'ambassade de la France pour aller voir le centre culturel français. Nous avons eu à connaître une école au niveau de Rouen qui nous a formés avec des cours par correspondance sans pourtant parler de l'Internet, c'est-à-dire qu'on nous envoyait des livres, des brochures, nous faisons des exercices à la fin de chaque leçon, nous les envoyons, le professeur il fait la correction, il nous envoie la copie, quand il y a l'examen, il nous demande d'aller au niveau du centre culturel français, nous sommes là pour être surveillés par des professeurs qui sont là, ils nous regardent avec des sujets qui sont venus à la main des agents du centre culturel français.
Voilà.
Maintenant, ma question est de savoir pourquoi les Américains n'ont pas ce système-là.
Ok, ça c'est une question que nous allons répercuter à qui de droit. Merci Youssouf pour votre réaction. On va prendre une petite pause et on va revenir à nos invités.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
L'Amérique et vous, nous parlons aujourd'hui des études aux États-Unis, expérience et démarche à suivre. On va accueillir un invité qu'on a annoncé en début d'émission, Monsieur Tukur Issa, qui a fait ses études à Morgan State University dans l'État du Maryland, ici aux États-Unis. Il est titulaire d'un MBA. Monsieur Tukur, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Voilà. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé aux États-Unis? Quelles études vous avez faites? Et comment est-ce que vous avez décidé de, au lieu de rester ici, mais de repartir?
Merci, monsieur. Je salue toute l'équipe de cette émission. Moi, je suis centrafricain. Je suis né à Bangui, la capitale de la RCA.
Tout à fait.
J'ai commencé mes études d'abord dans une province qui s'appelle Bambari. Donc j'ai fait le lycée de Bambari et puis après je suis arrivé à l'université de Bangui où j'ai fait l'institut de gestion d'entreprise. À la fin donc des 3 années que j'ai eu mon bachelor degree en gestion. Yeah. Donc j'ai eu le diplôme supérieur de gestion d'entreprise. Et ça, c'était en 1984. Et justement, à l'époque, on bénéficiait donc de bourses américaines. Donc, j'avais eu une bourse de l'USAID. Donc, une équipe qui est venue de Washington là, qui donc a procédé à la sélection. Et puis ben, voilà, j'ai été retenu, le seul, donc au niveau de l'institut de gestion. Et il y a deux de mes confrères aussi qui ont été retenus au niveau de l'institut, enfin de la chaîne de sciences économiques.
Alors, quand vous arrivez aux États-Unis, vous faites vos études. Déjà, comment ça se passe? C'est facile pour vous? Et à la fin des études, qu'est-ce que vous décidez de faire?
Bon, en tout cas, c'est facile. Ça, c'est facile pour moi parce que, vous savez, on passe du système francophone au système anglophone. Donc, il y a un problème au niveau de langue. Il faut apprendre d'abord la langue anglaise. Et l'anglais, c'est une langue que j'ai toujours aimée, j'ai toujours maîtrisée depuis le secondaire. Et donc, c'est ce qui m'a aidé dès que je suis arrivé aux États-Unis. On était arrivé d'abord à New York. Et de New York, donc, j'étais parti à Buffalo, New York, pour apprendre la langue. Et donc, vous savez, avant de commencer les cours académiques, il faut absolument passer le TOEFL et avoir un certain score.
Voilà, restez avec nous, Monsieur Toucourt. Nastasia, est-ce que comparé à la France, les études sont aussi chères qu'ici?
Donc justement, la France est très peu chère, c'est environ 400 euros par an, sachant qu'il y a la sécurité sociale qui est inclue dedans. Donc c'est pour ça que j'avais aussi choisi de partir avec un programme. Il était hors de question que je paie 30 000 dollars pour un semestre et c'était pas possible, j'avais pas l'argent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cherché un programme qui pourrait me payer mes études ou en tout cas faire un échange, c'est-à-dire que moi je vais aux États-Unis mais en payant en France.
D'accord. Ah, il y a certainement beaucoup qui nous suivent en ce moment et qui sont intéressés par les études en France. Je vais demander à chacun de nos invités de donner un ou deux conseils à tous ceux qui seraient intéressés. Je vais commencer par M. Ngono à Yaoundé. Un conseil pour ceux qui s'intéressent aux études aux États-Unis et déjà sur le choix des universités.
Alors, le premier conseil que je vais donner, c'est que, de mon point de vue, il faut avoir un plan, un véritable plan universitaire, au-delà des questions d'argent. Parce que, si je prends mon exemple personnel, je viens d'une famille qui n'est pas riche. Je souhaitais faire des études aux États-Unis. Je ne savais pas comment j'essaierais pour les payer. Mais parce que j'avais un vrai plan derrière moi et dans ma tête, et que j'y croyais vraiment, j'ai commencé par, comme je vous ai dit, faire des économies de bout de chandelle, à essayer de venir retrouver. Donc, première chose, la première denrée qu'il faut avoir, c'est l'information, rechercher la bonne information. Il y a toutes sortes de canaux aujourd'hui qui donnent l'information, comment faire pour aller étudier aux États-Unis. Il faut avoir la bonne information. Une fois qu'on a cette bonne information, la deuxième chose, c'est de savoir comment je fais pour intégrer une bonne université. On a évidemment les Ivy League, mais on a d'autres universités. On a des universités d'État qui ne sont pas si chères que ça, qui ne sont pas aussi chères que les universités privées, que sont les Ivy League pour la plupart. Donc, avoir toutes ces informations-là. Maintenant, quand on a toutes ces informations, essayer sur une année ou deux de se renseigner auprès de ceux qui ont été déjà dans les mêmes situations et voir comment ils s'y sont faits. Il y a des bourses, il y a des frais bancaires. Moi personnellement, j'ai fini de payer mon crédit bancaire seulement il y a quelques mois. Ça m'a coûté beaucoup, mais j'en suis fier parce que au final, je suis fier d'avoir réussi à faire ce qui n'était pas donné au départ pour des gens qui viennent de milieux comme le mien. Donc,
voilà.
Quand on a la bonne information et qu'on y croit, je pense qu'on peut y arriver.
D'accord. Alors, Monsieur Abba, vous, quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent étudier aux États-Unis? Édouard?
Vous m'entendez? Vous me recevez?
Voilà, on vous reçoit. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaitent étudier aux États-Unis?
Oui, je disais, en plus de ce que le frère venait de dire, en plus de bien rechercher les universités et d'avoir les moyens pour payer tes frais, il faut savoir aussi qu'il y a un système, disons, binaire ici. Il y a les frais pour les résidents et les citoyens américains et il y a les frais pour les non-citoyens et non-résidents américains. Donc ces frais, souvent, sont un peu élevés, mais la voie la plus facile pour devoir obtenir votre F F1, ça c'est le visa pour les études. Il faut passer par les écoles de langue qui sponsorisent ces visas. Donc une fois que vous passez par une école de langue, vous rentrez avec un visa étudiant. Après un certain temps, je pense que ça dépend de l'école, ça peut être un mois, deux mois, trois mois, vous avez la possibilité de transférer au niveau d'une autre école. Ça peut être un community college, ça peut être une université où vous êtes accepté, mais au moins vous avez cette facilité. Donc les écoles de langue, c'est facile d'avoir le visa, de vous sponsoriser une fois que vous avez les moyens et vous pouvez transférer directement vers une école une fois que vous êtes sur le terrain. Mais directement avec les universités, souvent, ce n'est pas facile et ce n'est pas aisé.
Voilà. Anastasia, vous, votre conseil à ceux qui souhaiteraient étudier aux États-Unis?
Pareil, se renseigner sur toutes les universités, sur les programmes, notamment aussi les universités américaines ont des programmes pour accueillir les étudiants étrangers. Je pense à Fulbright, qui a énormément de bourses et des places. C'est pas forcément pour étudier, c'est aussi pour venir enseigner leur langue natale.
Tout à fait.
Aux États-Unis. Donc il y a énormément de moyens. Il faut juste aller sur Internet et regarder. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités.
Alors, lorsqu'on a donc fini ses études, le gros problème reste ce qu'on doit faire après. Et vous, Barcia Longono, vous avez décidé de monter une entreprise?
Oui, une fois que j'ai passé, après mes études, j'ai fait 2 ans aux États-Unis, comme j'ai indiqué à Columbia, j'ai travaillé en Amérique, America, Work of New York, j'ai décidé de rentrer au Cameroun. J'ai décidé de rentrer parce que mon avis était que des gens qui ont mon parcours, il y en a des milliers et des milliers dans des pays comme l'Amérique du Nord, des pays d'Europe, mais des gens qui ont nos parcours académiques, il n'y en a pas des tonnes en Afrique. Donc, idéologiquement, j'ai fait le choix de rentrer. Et une fois rentré, j'ai mis sur pied une entreprise de communication, une agence foncière en communication et marketing, avec un ami qui avait été mon camarade à l'école de journalisme de Yaoundé, qui lui était directeur de communication dans une très grosse entreprise à Yaoundé. Mmh. Et aujourd'hui, 5 ans après, c'est en 2010, parce que je suis rentré en 2009, on a lancé l'entreprise en 2010. 5 ans après, nous employons directement à peu près 25 personnes. Et nous avons en plus une quarantaine de consultants qu'on utilise avec un portefeuille qui est à peu près aujourd'hui à 70 clients qui sont pour la plupart les administrations publiques, les projets de développement et quelques entreprises privées. Donc, je pense que mon rêve de rentrer et de venir expliquer à mon pays, je ne l'ai peut-être pas encore atteint à 100%, mais je suis sûr de bon rail. Par ailleurs, je me suis lancé dans l'agriculture puisque c'est à la mode. J'ai une grande exploitation de cacao que j'ai lancée depuis 2002.
Ah ben, ça, venant d'un étudiant de Columbia University, il faut le faire. On va prendre Alphonse Boaké au téléphone. Bonsoir, Alphonse.
Bonsoir, Jean-Lembon.
Alors, on vous écoute.
Moi, j'ai une question à poser à vos intervenants.
Allez-y.
Si par exemple vous avez la chance de tenir le visa de la loterie, vous jouez la loterie qui vit là-bas. Arrivez aux États-Unis avec votre famille, vous détenez l'emploi. Est-ce qu'il y a possibilité d'étudier avec un travail. Vous étudiez, vous avez une famille, est-ce qu'on peut s'en sortir?
Alors, je vais répercuter la question à M. Abba. Alors, vous obtenez votre green card, vous venez aux États-Unis, vous avez une famille. Est-ce que vous pouvez à la fois étudier, travailler et vous occuper de la famille?
Ce n'est pas du tout facile, mais c'est possible. Comme l'ont dit d'autres, les études coûtent ici très cher, c'est pas gratuit, même si le gouvernement peut vous faire des prêts ou bien si vous avez des bourses, vous devez toujours travailler dur. Donc vous avez deux choix, soit si vous êtes qualifié, vous n'avez pas nécessairement besoin de travailler, vous allez avoir un prêt, donc c'est un peu le financial aid. Des fois les gens pensent que c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit, c'est un prêt que l'État vous fait pour financer vos études. À la fin de vos études, vous avez une période de grâce de, je pense, ça fait 6 mois. Après ces 6 mois, vous êtes contraint de repayer cette dette de façon mensuelle. Maintenant, ça peut être en fonction de votre revenu et, ou bien s'il y a des circonstances où vous n'avez pas de travail, vous pouvez demander à ce qu'on retarde le début du repayement. Mais si ce n'est pas, disons, une bourse financée à 100% que vous avez reçue, vous êtes obligé de repayer. Vous pouvez travailler la nuit, si c'est ce que vous voulez, ou bien ne pas du tout travailler, mais sachez que c'est une dette que vous allez repayer et cette dette a des intérêts qui seront calculés.
Voilà. Nastasia, après les études, vous êtes certainement posé la question, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que vous avez décidé de faire?
Donc je suis restée un an aux États-Unis, ensuite je suis rentrée en France pour l'été où j'ai travaillé et finalement j'ai décidé de repartir aux États-Unis en septembre, 3 mois après. Voilà, j'ai décroché un visa, un e-media visa pour les journalistes, par chance, qui est pour 5 ans. Donc voilà.
Et vous en sortez pas mal aux États-Unis?
Oui, ça va très bien, ça marche.
Voilà, donc... On va faire un dernier tour de table juste pour le mot de la fin et on va commencer par Monsieur Ngono à Yaoundé.
Oui, John, enfin, je pense que le mot de la fin, ce serait simplement de continuer à encourager les jeunes Africains qui veulent étudier aux États-Unis, de leur dire qu'il n'y a de limite en réalité que celle que donne le ciel. Et que de toutes les façons, on peut partir de rien et réussir. Moi, je prends mon exemple personnel, comme j'ai dit, rien ne me plaît du destiné en réalité à faire Columbia University.
Voilà. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Monsieur Abba, le mot de la fin?
C'est juste pour encourager nos frères et sœurs à ne pas se décourager et surtout de tenter. C'est un pays de compétences, c'est un pays qui aime les défis. Si vous êtes intelligent, vous avez la passion dans ce que vous faites, il y a toujours les moyens de réussir dans ce pays. Donc ne désespérez pas, ne vous découragez pas, tapez à toutes les portes et voilà. Une de ces portes va s'ouvrir.
Voilà. Merci beaucoup Anastasia, merci d'être venu. C'est la fin de cette émission. John Lyndon était à la présentation, Fred et Joselle Morissin à la production, César assurait la mise en onde. Bonsoir.